Dans le Shinkansen pour Tokyo, je vis un épisode ridicule. J'ai perdu mon billet. J'ai beau vider mon sac, impossible de le retrouver. Il me reste la facturette de paiement, je la montre au contrôleur pour prouver ma bonne foi. Il n'en doute pas, mais il m'explique qu'arrivé à Tokyo, je devrais me présenter aux autorités. Les autorités de la gare de Tokyo, c'est énoncer mes frais. C'est à cause de la machine, précise le contrôleur. J'ai encore plus d'effroi. J'imagine une machine qui déchiquette les usagers sans billets. Comme j'ai 5 ans depuis la veille, j'éclate en sanglots. Le contrôleur m'envoie son homologue féminine dans l'espoir que la douceur d'une femme apaise des larmes aussi embarrassantes. Les passagers sont consternés. Pep se paye ma tête. Pleurer pour un ticket. La contrôleuse accourt pour me parler avec la gentillesse d'une maman. Son discours, proféré d'une voix caressante, n'en est pas moins comminatoire. Je redouble de sanglots et l'enfant de 5 ans ne songe pas à les essuyer ni à se moucher. Dégoûté, l'aimable employé du Shinkansen finit par me demander si je n'ai pas quelque honorable mouchoir. Je sors de mon sac un petit paquet de Kleenex, j'en saisis un. Miracle ! Mon ticket de train s'était glissé entre 2 mouchoirs en papier. Perversité insidieuse des choses. Je pousse un cri de joie en brandissant le billet. La contrôleuse me félicite comme si elle s'adressait à une enfant attardée. Le drame se termine. Il s'en fout de peu qu'elle ne me donne un sticker Hello Kitty pour achever de me consoler. Nous arrivons à Tokyo et je comprends à quel sérieux problème j'échappe. Pour quitter le quai du Shinkansen, il faut insérer son ticket dans un tourniquet qui ne peut en aucun cas vous livrer passage autrement. Je traduis le dispositif par « tourniquet » qui désigne chez nous un sas relativement facile à enjamber d'un bond ou d'une escalade. Ici, non seulement l'exercice serait impossible, mais surtout, cela ne se fait pas. Enfreindre la loi reviendrait à se promener tout nu, personne n'aurait cette audace. Bref, si je n'avais pas retrouvé le billet, j'aurais dû parlementer avec les autorités de la gare, et cela ne se serait pas limité à payer une amende ou un supplément, il aurait fallu m'humilier d'avoir contrevenu à l'obligation primale, être en règle. C'est très loin d'être la première fois que je voyage en Shinkansen. Si je n'avais jamais remarqué auparavant le tourniquet fatal, trouvons-lui un nom plus à sa mesure, le portique de la mort, c'est parce que je n'avais pas égaré mon ticket et que je l'avais livré sans réfléchir à l'automate, seule habilité à vous accepter sur le territoire de Tokyo. Quelque chose me dit que perdre son billet dans l'autre sens serait moins grave. À Nagoya, à Kyoto, à Osaka, le chef de gare vous verbaliserait un peu comme chez nous. À Tokyo, il faudrait s'expliquer devant une machinerie à la mesure de l'agglomération, 42 millions d'habitants. « Ça commence très fort, » me dis-je. Pep a réservé un hôtel à Ginza. Je connais Ginza. C'est la rue la plus célèbre de Tokyo. Mais je n'ai plus aucune idée de sa localisation. Nous prenons un taxi et je lis dans le regard du chauffeur à l'énoncé de l'adresse qu'il a affaire à des touristes débutantes. 400 mètres plus loin, il s'arrête. « Tu ne savais plus que Ginza est à côté de la gare de Tokyo ?» remarque Pep. « En effet, » dis-je stoïquement. L'hôtel est le contraire de la Ryokan Kyotoite, un haut immeuble moderne. Nos chambres sont des cubes, au 19e étage, avec vue sur la ville. Nous jetons nos affaires et courons nous promener sur Ginza. Pep exulte. Tokyo ! Je la comprends. Pour qui débarque, Ginza correspond pile à l'idée que l'on peut se faire de la mégapole. Je me garde de lui dire que Ginza ressemble désormais un peu à Fifth Avenue à New York. Si je la compare à mon souvenir de 1989. Ce qui m'étonne le plus, c'est d'avoir un souvenir de 1989. Je prends peu à peu conscience d'un phénomène mnémonique très gênant. J'ai habité Tokyo de l'âge de 21 ans à l'âge de 23 ans. J'y ai vécu des événements aussi fondateurs qu'une première relation amoureuse importante et une première expérience professionnelle. 2 livres prouvent combien ces années de jeunesse m'ont marqué. Et ce ne sont pas que des souvenirs consignés dans l'écriture. Ce sont des souvenirs avec lesquels je compose au quotidien. Me voici de retour à Tokyo et je découvre l'inefficacité de ma mémoire. Par exemple, Si je voulais me rendre à l'adresse où j'ai vécu en 1989, j'en serais incapable. Je me rappelle par cœur l'endroit et ses environs, et je n'ai plus aucune idée d'où il pourrait se situer. Au sud, à l'est ? Plus grave qu'une absence de sens de l'orientation, mes souvenirs tokyoïtes sont désincarnés. Mon corps n'en conserve aucune trace. Il va falloir que je serve de guide à Pep dans une ville qui est devenue pour moi une vue de l'esprit. Et bien évidemment, il n'est pas question que je lui raconte mon problème. Elle en conclurait que je me moque d'elle ou alors que je lui mens, que je n'ai jamais habité ici. Le verbe « habiter » a pour étymologie le fréquentatif du verbe « avoir » en latin. « Avoir longtemps », c'est « habiter ». J'ai eu longtemps Tokyo et cette possession a disparu. Je suis dépossédée de cette mégapole et je commence à peine à mesurer les effets de cette amputation. Est-ce à cause de ma régression à l'âge de 5 ans ? Le Kansai m'a si puissamment rendu ma petite enfance qu'il m'a retranché le reste. À cet âge-là, j'étais une petite provinciale. Tokyo m'était étranger. N'excluons pas qu'il y ait là une explication. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je suis au cœur de l'action. Après une longue promenade à Ginza, Pep veut se rafraîchir dans sa chambre. Ce répit me semble propice, j'applaudis. Je sors de la douche quand j'entends tambouriner à la porte. Je ne peux pas rester. Il y a des acariens. Une minute de plus ici et je meurs. En effet, le visage de mon ami est convulsé et elle a, au fond de la gorge, la marque d'un début fulgurant d'allergie. Je bondis dans mes souliers et nous descendons à la réception. Des gens très aimables lui jurent qu'on lui a attribué, suivant ses instructions, la chambre la plus neuve et propre de l'hôtel. Il est hors de doute qu'ils disent la vérité, mais les fenêtres des chambres peuvent à peine être entrouvertes, et c'est ainsi que, faute d'aération, un tel établissement est insalubre pour une asthmatique invétérée comme Pep. Nous voici en alerte. Où aller ? Comment trouver un autre hôtel ? A fortiori, un hôtel qui convienne un jeudi vers 16h. Je propose de retourner à Kyoto dans l'espoir que la ryokan nous loge de nouveau. « Je veux visiter Tokyo !» proteste Pep. Elle téléphone à notre contact sur place, l'excellente Alice qui habite Tokyo depuis 2 ans avec son mari et son fils. Miracle ! Alice propose aussitôt d'héberger notre amie. Son immeuble, archi-moderne, très aéré, devrait convenir à l'allergique. Je propose de prendre un taxi, elle affirme que le métro sera beaucoup plus rapide. Afin d'avoir l'itinéraire, elle demande à Pep de me parler. C'est très facile. Vous prenez la Yurakushosen jusqu'à Ikebukuro. Ensuite, vous... Panique. Pendant 2 années de ma jeunesse, j'ai emprunté le métro tokyoïte au moins 4 fois par jour. Oui, mais c'était il y a 34 ans. Je réponds oui d'un air dégagé pour dissimuler à Alice qu'elle me parle une langue étrangère et je conclue par un comique. Nous arrivons. C'est surtout à Pep que je cache mon état second. La pauvre a encore la gorge enflée de son début d'allergie, je ne vais pas l'embêter avec les accidents de mon cerveau. Je me rappelle qu'en 1989, je n'avais pas de carte de crédit. J'insérais des yens dans une machine qui me les troquait contre un ticket. Ce bon vieux système va me manquer, j'en suis sûre. Nous descendons dans le métro et je m'écarte de la machine devenue méconnaissable. Je m'adresse au guichetier et lui demande 2 tickets pour la banlieue d'Alice. L'homme sait qu'il ne s'agit pas d'une destination touristique et me suggère d'acheter plutôt 2 passes. « Excellente idée !» lui dis-je en lui tendant ma carte de crédit, qu'il repousse avec effroi comme si j'avais tenté de le corrompre. Il m'indique l'appareil dans lequel insérer celle-ci. Nous descendons sur le quai de la ligne Yurakucho et Pep pousse un juron d'admiration. « C'est super propre !» Et les gens attendent sagement en file à l'endroit où s'ouvriront les rames. « Je rêve !» Nous montons dans le métro et là, mon ami ne contient plus sa surprise. C'est l'heure de pointe et personne ne bouscule personne. Personne ne touche personne. On cède les places assises aux vieux ou aux femmes enceintes. Les bras m'en tombent. Je comprends son étonnement, mais ce que je vis est beaucoup plus incroyable. La ligne Yurakucho était l'une de celles que j'empruntais quotidiennement et chaque nom de station me plonge dans un émoi surnaturel. J'essaye d'expliquer à Pep que si j'avais vécu à Paris il y a plus de 30 ans, Prendre le métro et lire des noms de stations familières comme Vavin ou Raspail me mettrait en transe. « Es-tu allé là, aux yeux, pour ça ?» répond-elle impitoyable. J'en conclus qu'il vaut mieux garder mes sentiments pour moi, satisfaite par ailleurs d'avoir des souvenirs aussi concrets. Pourtant, j'ai beau sonder ma mémoire, ces explosions de sensibilité liées au nom des stations ne m'ont pas rappelé comment se déplacer et encore moins comment guider Pep dans une ville labyrinthique. Alice habite Nerima, qui, en 1989, n'était pas desservie par le métro. À l'époque, cette petite ville n'appartenait même pas à la banlieue. Il est récent qu'elle soit englobée dans le Grand Tokyo. Notre amie nous attend à la gare. Nous lui sautons dans les bras. « Tu me sauves la vie !» déclare Pep. « Tu diras cela si l'appartement te convient !» répond prudemment Alice. Elle nous conduit au travers d'une charmante cité japonaise dont l'emblème est le daikon, le radis blanc géant. On en vend à chaque échoppe. Au bout de 7 minutes de marche, nous arrivons devant l'immeuble d'Alice. Nous montons à l'étage et entrons. Le suspense est à son comble. « Voici l'endroit où j'installe ton lit si tu n'as pas d'allergie. Combien de temps faut-il pour savoir si ta crise va se déclarer ?»«
5 minutes, » répond Pep.
Pendant 300 secondes, nous demeurons debout, immobiles, à guetter les symptômes. La gorge de Pep enfle-t-elle ? Sa respiration se bloque-t-elle? Son nez coule-t-il? J'essaye d'élaborer un plan B pour ce cas catastrophique. Fouiller Tokyo à la recherche d'une chambre salubre me semble mission impossible. Il n'y aurait que 2 solutions. Le train pour Kyoto ou l'avion pour Paris.
C'est nickel, décrète Pep. Il n'y a pas d'acariens chez toi.
Nous poussons un soupir de soulagement. Alice, décidément, la personne la plus exquise de la planète, se tourne vers moi.
« Désolée, Amélie, je n'ai pas de place pour vous loger. »«
Mais moi, je n'ai pas d'allergie. Je retourne à l'hôtel. On se tutoie ?»«
Tu dînes avec nous quand même. Mon mari et mon fils sont allés faire les courses. »
C'est la fête. Gérald et Abel, 16 ans, reviennent avec de la bière japonaise et du daikon. Nous mangeons et buvons dans la bonne humeur. L'excès de daikon produit des renvois affreusement bruyants. C'est une soirée délicieuse.
Vous avez sans doute un emploi du temps chargé, dit Alice.
Au contraire, dis-je, et j'ai l'impression de n'avoir souvenir de rien.
J'adorerais vous guider dans Tokyo, suggère Alice.
J'applaudis. Après avoir sauvé Pep, c'est moi qu'elle sauve. Vers 22h30, je prends congé et retourne à la station de Nerima. Après 1 heure de trajet, me voici à l'hôtel de Ginza. Par la fenêtre de ma chambre, je vois Tokyo et ses lumières tentaculaires. Que m'apporte mon problème de mémoire? Je suis folle de joie d'être là. À Paris, j'avais prévu de relire à Tokyo à rebours, de Huysmans. J'éprouvais le besoin de redécouvrir ce chef-d'œuvre lu à 18 ans, au comble de l'exaltation. Pour des raisons difficiles à analyser, Tokyo m'avait paru le lieu idéal pour ces retrouvailles littéraires. Hier, nous étions le 24 mai. Mon père aurait eu 87 ans. Je sors à rebours de mon bagage, je me couche sur le lit et je commence la relecture avec solennité. Bien plus que lire, relire est un acte d'amour. Prendre le risque de réexpérimenter un coup de foudre, s'agissant d'un acte aussi intime que la possession littéraire, c'est insensé. Heureusement, le charme opère dès les premières pages. Il n'est pas indifférent de se réapproprier cette jouissance à Tokyo. L'hypermodernité de la vue de ma chambre apporte au style de Huysmans un assaisonnement délectable. À 18 ans, la France m'était inconnue. Ce livre ne m'en avait paru que plus mystérieux. À présent, je me rends compte que le repère de Des Esseintes se situe à Fontenay-aux-Roses et je trouve ce détail plutôt comique. Son incroyable palais n'est peut-être qu'un pavillon de banlieue, finalement. Par ailleurs, j'avais oublié la scène du dentiste et elle me traumatise.